Ne vous êtes-vous jamais demandé comment certains animaux s'y prenaient pour avancer? Nous marchons sur nos deux pattes arrière, comme des poules finalement. D'autres animaux familiers se déplacent à quatre pattes. D'autres nagent ou volent, nous le savons bien. Mais avons-nous une idée de la diversité des modes de locomotion? Je suis prêt à parier que vous la sous-estimez. Je vais tenter de vous mettre dans la peau de quelques espèces pour vous en faire toucher les contraintes comme le côté merveilleusement différent. Nous laisserons donc volontairement de côté ce qui est trop proche de nous. Pas de chien, pas de cheval, pas de tigre. Imaginez, vous êtes un micro-organisme. Vous êtes microscopique et aquatique. Disons que vous êtes un protiste. Un protiste, c'est un organisme unicellulaire avec un noyau dans la cellule, des organites, des sortes d'organes à l'intérieur de la cellule, quelque chose déjà d'assez compliqué. Vous êtes équipé de cils vibratiles. En fait, vous êtes une paramécie qui nage dans l'eau trouble d'une petite mare. Vous êtes d'une élégance et d'une agilité surprenantes. Votre propulsion est assurée par des cils répartis sur presque toute la surface de la cellule, ce qui fait qu'il n'y a pas de partie spécialisée dévolue à la locomotion. Donc pas d'avant, pas d'arrière, la paramécie se déplace de manière multidirectionnelle. Vous constatez que votre déplacement est freiné. Pourtant, la mare est calme. N'oubliez pas que vous êtes microscopique et que la résistance due à la viscosité est très importante. Et oui, l'eau est visqueuse à cette échelle. Ce serait pour vous comme de nager dans une piscine de miel. Un peu fatigante, la nage dans le miel. Que diriez-vous de changer d'échelle? Passons à plus gros, au monde animal. Avec le monde animal, ça se complique un peu. Un animal est un consortium de cellules organisées en sous-ensembles, fonctionnellement cohérents, qu'on a l'habitude d'appeler des organes. De ce fait, il existe une tendance lourde, dès l'origine des animaux, à la spécialisation des rôles. On le voit déjà chez les éponges, des animaux qui ne se déplacent pas, des animaux un peu paresseux, mais qui déplacent l'eau à l'aide de cellules spécialisées. Mais laissons les éponges pour des animaux mobiles, qui vont changer de place, qui vont se mouvoir dans l'eau. Je choisis l'eau car la vie a d'abord été marine et que l'océan abrite presque tous les modes de locomotion. Commençons par un truc simple, la nage des poissons. Les poissons ont des nageoires qui battent l'eau pour faire avancer l'animal, vous le savez. Au début, vers moins 510 millions d'années, la nageoire n'était qu'une région spécialisée du corps située tout à l'arrière d'un animal qui n'était pas encore un poisson au sens où nous l'entendons. Un premier truc à gérer par notre ancêtre des futurs poissons est la stabilité. C'est bien beau de se propulser, mais même dans l'eau, il faut garder un minimum d'équilibre. En battant l'eau par un mouvement latéral de la nageoire, cela impose un équilibre droite-gauche du corps qui est probablement à l'origine de la symétrie bilatérale. Les mêmes organes se répartissent de manière paire de part et d'autre d'un plan de symétrie. C'est pourquoi nous avons deux yeux, deux narines, deux oreilles, deux bras, etc. Ce n'est pas fini. En battant l'eau par un mouvement latéral, la nageoire produit une énergie mécanique qui sert à la pousser, mais qui contribue aussi à une rotation du corps sur lui-même. Conséquence gênante, il y a du roulis. Première solution, le corps s'aplatit latéralement. Mais surtout, vont naître des lames latérales, des stabilisateurs empêchant cette rotation. Ce seront les nageoires impaires d'abord, dorsales et anales, qui limitent l'effet rotation, puis surtout les nageoires paires antérieures, dites pectorales, qui empêche vraiment le corps de tourner. Suivront une seconde paire de nageoires latérales, les postérieures dites pelviennes, et finalement les poissons nagent très bien et toutes leurs nageoires y contribuent. Au cours de l'évolution, d'autres vertébrés adopteront des nages bien différentes. Une nage par traction avec les membres antérieurs comme chez les tortues marines, ou l'adoption d'une nageoire caudale horizontale chez les cétacés par exemple, ce que n'a jamais fait aucun groupe de poissons, on ne risque pas de confondre un cétacé avec un poisson, vous ne confondrez plus jamais un dauphin avec un requin. Pour un tour d'horizon plus complet, il faudrait aussi évoquer les manchots qui, sous l'eau, filent comme des obus, ou encore les loutres de mer du Pacifique qui se prélassent en nageant sur le dos, leur progéniture douillettement installée sur leur ventre. Existe-t-il des animaux qui nagent à l'envers ? Il n'y a pas que les vertébrés qui nagent, les mollusques aussi, et parmi eux, les céphalopodes, qui font des choses bizarres, comme avancer en reculant. Les céphalopodes, ce sont les seiches, les calmars ou les pieuvres. Ils n'en font qu'à leur tête. Quand ils se déplacent, cette tête se retrouve à l'arrière, à l'inverse du sens du déplacement. Autrement dit, ils avancent en reculant. On pourrait se demander comment ils font pour ne pas se cogner tout le temps, et pourtant, ça marche depuis plus de 500 millions d'années. Ils se propulsent par expulsion d'eau. Leur corps est complètement enveloppé dans un sac ouvert vers l'avant, que l'on appelle le manteau. Ils enferment de l'eau sous le manteau, le contractent et expulsent vigoureusement l'eau par un siphon conique, ce qui produit une poussée. Le siphon est tourné vers l'avant et donc l'animal est propulsé à reculons. Mais comme l'animal contrôle l'orientation de son siphon, la direction du déplacement est maîtrisée. Existe-t-il des animaux marins dont le déplacement s'apparenterait au vol ? On pense immédiatement aux exocètes, les poissons volants, qui pratiquent un vol plané hors de l'eau à la surface des vagues, mais il y a aussi des nages qui s'apparentent à un vol. Regardez la nage d'une raie, d'une grande raie manta par exemple, dont les grandes nageoires latérales ondulent doucement. D'ailleurs, chez les poissonniers, ne parle-t-on pas d'ailes de raie ? Dans les profondeurs abyssales, cohabitent de nombreuses espèces de concombres de mer, des holothuries. On imagine des boudins disgracieux posés sur le fond. Pas du tout. Parmi elles, une belle danseuse, Enipniastes, dont j'ai pu admirer la grâce lors d'une plongée à bord du Nautile à 2500 mètres de profondeur. L'animal mesure une vingtaine de centimètres. Le corps est rouge vif, semi-transparent, laissant voir le tube digestif à l'intérieur. Sur les côtés, l'épiderme s'étire pour former des voiles que notre loturie fait onduler à la manière des écharpes d'Isadora Duncan ou à l'image de la danse des sept voiles. Le bel animal s'élève alors au-dessus du fond comme s'il volait. Le spectacle est fascinant. Allons voir sur le fond. On y trouve pas mal d'animaux qui ne nagent pas ou peu, mais se contentent du plancher des vaches, si l'on peut dire. Certains marchent, d'autres rampent. Les marcheurs ont des pattes, enfin en principe. Je peux évoquer les crustacés, avec les crevettes, les homards ou les langoustes, bien connus pour d'autres raisons. Mais il existe des arthropodes qui biaisent. Certains se servent de leurs pattes de manière bizarre pour avancer en oblique. Ce sont les crabes, à qui l'on doit l'expression « marcher en crabe ». Mais pourquoi font-ils ça ? Les crabes ont un corps plus large que long, car leur abdomen est replié sous le corps. Retournez un crabe et vous verrez un triangle présentant des bandes transversales. C'est l'abdomen replié, comme un chien qui aurait la queue entre les pattes. L'insertion des quatre paires de pattes se fait dans un espace limité et les pattes sont un peu serrées. Mais elles restent longues, avec une grande ampleur de mouvement. Si les pattes opéraient une poussée d'avant en arrière, le crabe s'en mêlerait les pinceaux. En effet, l'axe avant-arrière est encombré, tandis que l'axe droite-gauche est disponible. Les pattes effectuent alors une poussée dans le sens orthogonal, ce qui fait que les crabes se déplacent de côté. Un mode inhabituel de déplacement qu'ils sont les seuls à pratiquer. Pas commode de ne pas bien voir où l'on va, heureusement, les yeux sont montés sur des pédoncules, cela aide bien. Il y a aussi des marcheurs sans pattes. Les étoiles de mer avancent à l'aide d'une multitude de petites ventouses qui tapissent la face inférieure de leurs bras. On les appelle des pieds ambulacraires. Certaines holothuries abyssales, nos concombres de mer, ne possèdent que très peu de pieds ambulacraires. Mais ils sont géants. ce qui fait que la bête évoque une vache à 10 pattes. Elle l'évoque d'autant plus que la partie antérieure est baissée vers le fond dans l'attitude d'une vache qui broute. Les Anglais les appellent des cochons de mer. Leurs cousins, les oursins, utilisent plutôt leurs piquants, à la manière des échasses des bergers des Landes, ce qui n'en fait pas des champions de la course. Et puis, les rampeurs. Poursuivons avec les holothuries profondes, qui décidément savent tout faire. Certaines rampent sur le fond à la manière d'énormes limaces. Au large de Clipperton, dans le Pacifique, à 5500 mètres de profondeur, dans une plaine abyssale pavée de nodules de fer et de manganèse, glissent de grosses holothuries jaunes vifs qui font 30 cm de long. On va aussi trouver en mer des rampeurs plus classiques que sont les gastéropodes, les escargots marins pour faire simple, qui se déplacent sur une sole qui se contracte en ondulant. Cela vaut qu'ils soient petits comme les littorines ou les bulots, ou très gros comme les strombes géants, les lambis des Antilles, dont le poids dépasse le kilogramme. Descendons encore et creusons. À terre, nous avons des vers de terre et des taupes. Là au moins, on peut se dire que les bêtes marines sont battues à plate couture. Eh bien non. En mer aussi, existent des vers de toutes sortes, dont certains vivent enfouis dans le sédiment, la vase ou le sable. Certains se comportent véritablement comme nos lombriques terrestres. D'autres, plus élégants, sont enfouis verticalement et ne laissent apparaître à la surface du fond qu'une corolle semblable à une fleur qui se rétracte au moindre courant d'air, enfin plutôt un courant d'eau. Mais ce n'est pas tout. La mer a aussi ses taupes, entre guillemets. Ces taupes marines sont des oursins qui vivent complètement enfouis, creusant des galeries avec leurs piquants en avançant doucement. Et puis, il y a ceux qui ne bougent pas. Ce sont les animaux fixés qui se nourrissent des particules organiques en suspension dans l'eau de mer. Rien qu'en domaine aquatique, vous voyez que les adaptations associées au déplacement sont multiples et que presque toutes les options permises par la physique ont été explorées. Avec tout ça, je n'ai pas eu le temps de vous parler des serpents de mer, des crocodiles, des oiseaux, des kangourous ou des gazelles. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David. Réalisation, Charlotte Roux.